Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. La semaine dernière, je vous expliquais que s'il y avait la moindre contradiction entre vos croyances et ce que la Bible affirme, l'erreur ne peut pas se situer dans la révélation divine, qui est la seule source de vérité, mais dans ce qui vous a été enseigné et que vous avez admis comme vérité sans vérifier dans la Bible. Allez-vous vous accrocher à vos croyances, même si les Écritures les contredisent? Connaître la vérité, la prouver comme le firent les Juifs de Bérée et la pratiquer, est réellement une expérience formidable, encourageante dans la vie. Le Christ n'a-t-il pas déclaré « Si vous demeurez dans ma parole, dans mon enseignement, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, elle vous extirpera de l'esclavage du péché. » Il poursuit en disant « Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché ?» Les religieux de l'époque auraient préféré l'entendre mentir et appuyer leur enseignement qui s'était écarté de la vérité. Le Christ poursuit « Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? Celui qui est de Dieu écoute. Il écoute et met en pratique les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. » Aujourd'hui encore, les gens s'entêtent à croire et à pratiquer ce qui est opposé aux Écritures. Au cours de l'émission précédente, nous avons vu quelques passages qui contredisent les croyances d'une grande majorité de chrétiens qui supposent bien à tort être disciples du Christ. Nous avons examiné divers versets confirmant que le ciel n'est pas réservé à celui qui meurt en Christ, mais la terre. Nous avons encore vu que l'homme n'a pas une âme immortelle, mais qu'il est une âme, car la Bible déclare que l'âme qui pèche est celle qui mourra. Enfin, nous avons vu que les méchants, les hautains qui auront refusé de se soumettre à Dieu, seront détruits à jamais, ils ne souffriront pas dans un enfer qui brûlera éternellement. Mais alors, qu'est-ce que la mort? Faut-il la craindre? Lors de la mort, la conscience disparaît. La Bible décrit la mort comme un long sommeil duquel nous devons émerger. Le prophète Daniel a écrit « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. » Comprenez bien ce passage. La honte éternelle, c'est la mort éternelle qui les réduira en cendres, selon le 4e chapitre de Malachie. En fait, une partie de ceux qui dorment dans la poussière de la terre recevra la vie éternelle. L'autre partie, elle, ne recevra pas la vie éternelle, mais la honte éternelle, une destruction qui durera à jamais, une destruction pour toute l'éternité. Examinons encore ce que la Bible déclare sur la mort. Le psalmiste écrit « Ils ont été dépouillés, ces héros pleins de courage, ils se sont endormis de leur dernier sommeil. » Le roi David demande à Dieu « Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. » En relatant les dernières paroles d'Étienne qui fut lapidé, l'apôtre Luc écrit « Il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. En parlant de son ami Lazare qui était mort, Jésus déclara « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit tout ouvertement « Lazare est mort. » Ces passages ne prouvent-ils pas que les morts sont inconscients, qu'ils dorment dans l'attente d'une résurrection? Voyons maintenant la Trinité. Ce mot ne figure aucunement dans la Bible. Voilà ce qu'en dit un dictionnaire de la Bible. Il résulte que l'Esprit de Dieu n'est pas présenté dans l'Ancien Testament comme une personne. Il est la force par laquelle Yahvé intervient dans la vie de l'homme et qui n'est pas plus distinct de Yahvé que sa main ou sa bouche. L'Esprit Saint est force de Dieu, puissance de Dieu à l'œuvre, en Jésus d'abord, puis chez les siens dans l'Église. Le prophète Michée confirme cela. « Mais moi, je suis rempli de force, de l'Esprit de l'Éternel. » Quant à l'apôtre Paul, il écrit « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Le Saint-Esprit est donc la force de Dieu, la puissance de Dieu. Juste avant son ascension, Jésus déclare à ses apôtres, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » L'apôtre Paul déclare, « Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. » Dieu a ressuscité le Seigneur par sa puissance, par son Esprit Saint. Paul le confirme, « Et c'est l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, habite en vous. » Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. L'ange Gabriel dit à Marie, « Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. La puissance du Très-Haut, voilà la définition du Saint-Esprit. Il s'agit de la puissance de Dieu. Si le Saint-Esprit était une personne, c'est lui qui devrait être considéré comme le Père du Christ. Or, lorsqu'il priait son Père, Jésus s'adressait à Dieu et non au Saint-Esprit. En débutant son évangile, l'apôtre Jean écrit « Au commencement était la parole » et la parole était avec Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Trouvez-vous normal de ne pas découvrir le Saint-Esprit dans ce passage, si le Saint-Esprit est, lui aussi, un Dieu? Le prophète Daniel eut une vision du futur couronnement du Christ. Ce couronnement aura lieu lorsque les royaumes lui seront remis. Et ce prophète n'y vit que l'Ancien des Jours, qui est le Très-Haut, le Père Céleste, ainsi qu'un personnage semblable à un homme qui est le Christ. Si le Saint-Esprit était une personne, ne devrait-il pas être convié à cette grandiose cérémonie? Mais il n'est même pas mentionné dans la description de cette vision. Étienne eut une vision des cieux juste avant d'être lapidé. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus, debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Étienne, qui était rempli du Saint-Esprit, de la puissance de Dieu, ne vit que Dieu et le Christ. L'apôtre Jean reçut une révélation. Il y explique ce que sera la nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire. Et l'agneau est son flambeau. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Le Saint-Esprit est ici encore exclu de la scène. Pourquoi? Parce que la Trinité est un mythe et que le Saint-Esprit n'est pas un personnage divin. Prenez la peine de vérifier. Allez-vous vous accrocher à vos croyances, à des croyances qui s'opposent à l'enseignement biblique? Je sais qu'il existe des passages dans les Écritures qui sont avancés pour prouver l'existence d'une Trinité. Mais nous avons une étude sur le sujet. Elle est gratuite et vous sera expédiée sur simple demande de votre part. L'auteur de toute séduction religieuse n'est autre que Satan. Vous devez savoir que c'est lui qui faisait partie d'une Trinité. La Bible nous informe qu'il y avait trois archanges. Lucifer, qui est devenu Satan, Michel et Gabriel. Mais Lucifer fut déchu, c'est ce que Jésus a déclaré à ses disciples. Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Pourquoi Satan inculque-t-il la doctrine de la Trinité? Parce que Dieu veut agrandir sa famille. Il veut y incorporer des fils et des filles qui pourront y entrer après repentance, baptême et réception du Saint-Esprit. Cette force, cette puissance, que Dieu ne donne qu'à ceux qui lui obéissent. Satan veut cacher que Dieu est une famille qui est actuellement composée de deux personnes seulement, le Père et son Fils Jésus-Christ. Cette famille n'est nullement une trinité fermée, elle est ouverte à tous ceux qui veulent se soumettre à la volonté de Dieu. Le chiffre 2 est très présent dans la Bible, nous y découvrons les deux membres de la famille divine, comme l'apôtre Jean l'a écrit. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Il y a le premier Adam et le second Adam qui est le Christ. Il y a l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, la vieille Jérusalem et la nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel. Il y a la première venue du Christ, il y aura sa seconde venue, lorsqu'il reviendra avec gloire et puissance pour établir son royaume sur terre. Zacharie a prophétisé, « Voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux. » Il s'agit de sa seconde venue. Il est humble et monté sur un âne le petit d'une ânesse. Ceci s'est déjà passé lors de sa première venue et cette prophétie se situe dans Zacharie au chapitre 9. N'oublions pas que Dieu est un en deux personnes et non en trois personnes. Le Christ a déclaré « Moi et le Père, nous sommes un. » Pas question du Saint-Esprit. En ne prenant pas la peine d'examiner les Écritures comme vous le devriez, vous devenez esclave de ce qui vous a été enseigné, esclave de vieux mythes religieux qui manquent de cohérence avec la parole de Dieu. Je vous rappelle ce que Jésus a déclaré, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Un affranchi est un esclave qui a été libéré de son esclavage. Il a été libéré de la servitude dans laquelle il se trouvait. L'apôtre Paul a écrit, « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Paul a ajouté, « Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. » La plupart des gens sont, sans le savoir, esclaves de leurs préjugés et de leurs croyances. Cet esclavage s'arrêterait s'ils prenaient la peine de vérifier la validité de leurs croyances. Paul a écrit, « L'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été racheté à un grand prix. Ne devenez pas esclave des hommes. Le véritable chrétien, celui qui met en pratique la loi et les commandements, qui vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, ne craint pas l'avenir. Il sait que les promesses divines sont pour lui. Il fait sa part. Il recherche avant tout la justice et le royaume de Dieu. Ensuite, il remet tout entre les mains de Dieu et il ne s'inquiète pas comme le Christ le lui recommande. Je reçois beaucoup de lettres d'auditeurs qui se font du souci pour un conjoint, un enfant, un parent disparu. Ils croient que ce cher disparu est au ciel, mais ils n'en ont pas la certitude absolue, car ils trouvent des contradictions entre ce qui leur a été enseigné et ce qu'ils découvrent en approfondissant les Écritures. Ils ont des doutes et voudraient savoir où sont leurs défunts. L'étude de la Bible leur permettrait de savoir que la mort n'est qu'un long sommeil et que la résurrection des morts est certaine. Les grands patriarches comme Abraham, Jacob, Moïse, pas plus que David ni les apôtres, ne sont au ciel. Ils dorment d'un sommeil profond. Toutes ces apparitions, qui existent de par le monde depuis des siècles, font partie de la séduction de Satan. Elle perpétue son grand mensonge à Ève, « Vous ne mourrez point, vous serez comme des dieux. » Relisons les paroles du Christ. « Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? Quand prendrez-vous la décision de rechercher la vérité et de croire le Christ, plutôt que toutes ces légendes et mythes d'origine païenne ?